T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute Complètement Culte tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
Depuis ses débuts en 1991, Doc Gynéco dégageait une personnalité singulière et atypique dans le milieu du rap français, dont il est l'un des pionniers. Que ce soit en solo ou avec le ministère amer aux côtés de Stomy, Bugsy, Passy et DJ Getch, le rappeur originaire de Clichy a marqué les esprits par sa personnalité cool et nonchalante en déconnexion totale avec le monde réel. Alors qu'il était déjà en mode high aux côtés de Joey Starr dans les Guignols de l'Info, les nouvelles générations le connaissent pour ses interventions lunaires et divertissantes dans « Touche pas à mon poste ». Invité par les médias pour amuser la galerie malgré lui, on oublie beaucoup trop que le Doc a contribué à la démocratisation du rap français dans l'Hexagone. Et ce, grâce à son phrasé si particulier, son humour, sa légèreté, sa provocation, son désenchantement et sa sensibilité. Et oui, sa personnalité complexe ressort dans son premier album qu'il a écrit à seulement 22 ans, sorti en 1996. Première consultation est considérée comme l'œuvre la plus aboutie et réussie de sa carrière. Dans cet album, Doc Gynéco nous présente une galerie de portraits et de lieux. Le rappeur y incarne, avec beaucoup de provocation, un macho cynique, hâbleur et obsédé sexuel. En plus d'innover en mélangeant les sonorités pop, funk et soul, le Doc intègre un flow mélodieux en provenance de Los Angeles dans ses textes, tout en créant un lien avec la variété française. Cela donnera un résultat étonnant et très agréable à l'écoute. Si Première Consultation avait autant marqué les esprits, ce sont pour les thèmes à la fois urbains, populaires et matures qui y sont traités. Dans Nirvana, qui est sans doute le morceau le plus apprécié et connu de sa carrière, Doc Gynéco y aborde le thème du suicide au travers d'un personnage blasé de la vie n'ayant plus goût à rien et qui souhaite en finir. Nirvana sera un frein à la diffusion de l'album à la radio et à la télévision. Mais heureusement, Canal+, chaîne audacieuse à l'époque, transgressera les règles et permettra à l'artiste d'exploser. À la fois acclamé pour son côté précurseur et décrié pour son obscénité et son côté rentre-dedans, Première Consultation est considérée comme un classique du rap français. Un album qui aura le mérite d'avoir fait bouger les choses et d'aborder des sujets encore tabous dans le milieu du rap et dans la société. Avant de parler de cet album en lui-même, c'est quoi votre rapport à Doc Gynéco? Vous pensez quoi de ce rappeur, Mathis?
Écoute-moi bien. Doc Gynéco, pour moi, c'est le papa du rap. C'est le tonton du rap.
Non, faux.
Si, mais genre, quand tu penses à Doc Gynéco, je sais pas, moi je pense, mec.
À TPMP quand il dormait.
Un pantalon super large, un gros hoodie, tu vois, genre en mode le rap à l'ancienne.
Je suis pas d'accord. Moi, pour moi, s'il y a plusieurs papas dans le rap, et il en est sûrement pas l'une des figures majeures. Après, il a apporté.
Ah, pour toi, c'est pas un des pionniers du rap?
Non, pas du tout.
Pour toi, c'est qui les pionniers?
Bah, t'as Booba aujourd'hui qui est.
Attends. Booba n'était pas du tout un pionnier du rap français dans les années 90.
Non, si, il y avait Lunatic, hein. Avec
ouais, mais.
Ali.
Quand tu parles de pionnier, c'est IAM, c'est NTM,
et puis il y a Lunatic aussi.
Le ministère amer avec Passy et Stomy Bugsy.
Il y a le 113.
Il y a le 113, oui.
Il y a le 113.
Mafia Quinfri.
Mafia Quinfri. Il y a Time Bomb. Le titre Time Bomb explose avec tous les rappeurs. Mais en fait, je sais pas quoi penser de.
Moi, je suis assez sceptique. Moi, en tout cas, ces sons, j'ai vraiment pas aimé. Pourtant, j'aime bien le flow à l'ancienne du rap ancien, mais. Moi, en fait, le problème, c'est que son image est trop dégradée. Donc, moi, en fait, j'ai même pas le souvenir.
Dégradé par rapport à quoi?
Je sais pas.
Aux polémiques.
Il a endormi.
En fait, je parlais tout à l'heure de Selena Gomez et de la façon dont elle a utilisé sa notoriété, sa plateforme, son statut de star pour véhiculer un message positif. Par contre, Doc Gynéco, c'est tout le contraire. Il a soutenu Nicolas Sarkozy en 2007. Il y a des polémiques, il y a des accusations d'agression sexuelle
aussi.
Donc on est mitigé, parce que moi je suis un bon consommateur de rap, donc je sais que Première Consultation a marqué l'histoire du rap, que lui a marqué le rap dans les années 90, a façonné le paysage hip-hop dans les années 90, mais après, qu'est-ce qui se passe, tu vois?
Après, si on parle des pionniers, il faut aussi parler de La Caution, Fab, MC Solar.
Oui.
Voilà. Oh, mais qu'est-ce qui reste de Doc Gynéco? Par exemple, MC Solar,
moi je l'aime beaucoup.
C'est le rap.
Le Nirvana. la chanson Nirvana. C'est une chanson qu'on continue d'écouter, qui est diffusée sur Skyrock. Je ne vais pas dire régulièrement parce que c'est quand même un son qui date de 96. Mais voilà, ça tourne, on connaît Doc Gynéco, c'est un personnage aussi. Pourquoi est-ce que Cyril Hanouna a été le chercher ?
C'était drôle. Hein.
C'est parce que voilà, moi, il est bon délire. PMP, ça. Du coup, vous quoi de l'album Première Consultation ?
Très, très bon, mais c'est, ça a marqué toute une génération.
Après, moi, c'est pas mon style de rap, perso.
Mais moi, c'était incroyable.
Je dois t'avouer que j'avais pas écouté avant cette émission.
Moi aussi,
je l'ai écouté. Je t'avais dit, j'allais l'écouter le matin dans le métro. Je te jure que j'ai écouté dans le métro. Et ma tête, elle bougeait comme ça, d'avant en arrière. Je me voyais en 1990 avec tous mes srabs posés. Et je me dis, quelle masterclass. Genre, premier degré, Nirvana.
Tes crabes, j'ai pas compris.
Mes srabs.
Ah, tes srabs.
Mais genre, Nirvana.
T'es capitaine de srabs.
C'est ça que j'ai compris aussi. Moi.
Mais premier degré.
On va, on va un peu travailler sa gorge. Hein. On dit srab. Un srab. Un srabs.
Il joue au Scrabble. Avec mes Scrabble. Et nous scrabons tous. Tous ensemble. Tous ensemble. Et moi, mes Scrabble.
Je vais rentrer chez moi.
Non, donc, bref, toi, t'as kiffé l'album.
Ouais, et surtout, Nirvana, je l'ai ajouté à ma playlist. Donc, ouais, c'est que vraiment, j'ai fait une vraie découverte. Et je l'ai écouté plusieurs fois.
Vous avez pensé
semaine.
Quoi du son lui-même, Nirvana ? Est-ce que c'est le morceau qui ressort le plus de cet album ?
Ouais, tu sais que je me suis dit. Tu le sors aujourd'hui, Nirvana, dans le déjà dans la thématique et le sujet que ça parle, je pense qu'il peut fonctionner aujourd'hui. En fait, la thématique, etc., ça m'a fait penser aussi un peu à Aurel San, saison
Suicide social.
Oui, genre, même quand il parle de la société en général, tu vois.
Après, moi, c'est pas mon style, ça aussi. Moi, je suis pas objectif, donc c'est pas du tout le genre de son que j'écouterais.
T'es pas old school, quoi.
Bah, si, mais là, je sais pas, c'est pas. Ça m'a moyen.
T'es la plus belle, rap mais... good vibes que rap conscient.
Voilà, ouais. Moi, ça, c'est la jeunesse. Hein. Ça, moi.
Ça, c'est la jeunesse.
Je suis pas d'accord, mais.
Mais la plupart de la jeunesse, si tu leur dis, oui, j'adore le rap conscient, j'adore Kerry James, j'adore Alpha One.
On lui rétorque, oh, tu veux te donner un genre.
Mais de base, le rap, c'est censé être conscient. Ça, faut pas oublier.
Oui, mais c'est politique.
C'est anti-politique, c'est souvent anti-système.
C'est politique à la base. Hein. Le rap, c'est.
Bien sûr, c'est dans le bronze dans les années 60 pour justement.
Les années 70.
70 ?
70,
oui. Oui, du côté des États-Unis.
Dans le Bronx, ouais.
Du coup, oui, non, c'est politique. C'était à l'époque où il était à son prime, en fait. Où il avait, il était pas.
C'était son premier album. C'était à 22 ans. C'était... Franchement, tu démarres avec Première Consultation, c'est fort. Je pense qu'il a eu du mal à dépasser le succès et l'aura de Première Consultation.
Je pense que son alcoolisme, ses addictions ont pris dessus. Et du coup, ça n'a pas joué en sa faveur.
Il a fait beaucoup de mauvais choix. C'est vrai que le soutien de Sarkozy, ça l'a suivi pendant des années. Et puis il s'en est détaché, il a appris de ses erreurs. Lui-même, il le dit qu'il le regrette, qu'il fera plus de politique, qu'il aurait jamais dû se lancer là-dedans. Doc Gynéco, malgré tout, on continue de parler de lui. C'est un personnage.
Mais pour quelle raison ? C'est ça.
Moi, je pense pas qu'on continue à parler de lui.
Si, mais pour quelle raison ?
Mais oui, pour ses polémiques, pour ses passages problématiques.
Moi, par exemple, je n'ai aucun souvenir de Doc Gynéco rappeur. Moi,
Mais c'est pas ta génération.
Peut-être aussi. Ouais, voilà, je suis pas objectif. Mais en tout cas, moi, je me souviens du Doc Gynéco. Voilà, agression sexuelle, on parle de lui. Je le voyais à moitié endormi sur un plateau de TV. C'était hilarant, hein. Mais vous voyez que c'était un mec qui était bourré par la drogue, à mon avis. Donc voilà.
C'était triste.
Pour toi, Hanouna, il s'est servi de lui ?
Ah, bien sûr.
Bien sûr. Mais c'était marrant. Hein. Mais je pense que Doc Gynéco, c'était drôle. Faut quand même avouer qu'il y a des moments qui sont très marrants.
Oui, mais moi je me sens. Avec du recul, je culpabilise parce que je sais quelle tournure a pris cette émission. Sauf que nous, on était complices de ça. On ne se rendait pas compte, peut-être.
Ouais, peut-être, ouais.
Après, elle n'avait pas encore pris ce virage.
Non, si, quand même, hein, ça commençait.
Ça commençait, mais on a quitté au bon moment, c'est ça que je veux dire. On n'a pas continué, on a vu ce que ça allait devenir.
Oui, on va se marrer sur l'état de Doc Gynéco, le fait qu'ils sont un peu ailleurs. Du coup, oui, non, c'est ça, ça fait mal au cœur, en fait. Genre, moi, je le respecte, parce que ce n'est pas une mauvaise personne, au fond. Et pour ce qu'il a amené.
Des agressions sexuelles.
Oui, ça c'est vrai. Mais
pour le moment, il est présumé innocent.
Voilà, c'est présumé innocent, mais bon, il n'y a jamais fumé de feu en feu pour moi.
Je reconnais, il a toujours une image sympathique. Enfin, c'était pas une mauvaise personne. Puis moi, ça me fait de la peine parce que d'un côté, c'est pas un mec méchant, mais d'un autre côté, il s'est tellement affiché. Dans des états qui sont déplorables, qui fait que.
Moi, je pense qu'il a joué avec ça.
Sur TPMP, je vois qu'il y avait qu'il acceptait les critiques et qu'il en rigolait.
Franchement, t'as des émissions sur les plateaux, il était.
Moi, j'hésite.
Il était bien, quoi. Il répondait bien aux questions.
Mais moi, j'hésite. Tu sais pourquoi ? C'est sa famille qui lui a demandé de partir parce qu'ils se sont rendus compte qu'il profitait de sa personnalité un peu folle et du fait qu'il soit à l'ouest, encore une fois, tu vois.
Après, c'est pas TPMP en règle générale, c'est les médias. On profite de chaque personnalité quelque part.
Ouais, encore plus quand c'est Hanouna quand même.
Et encore plus quand c'est polarisant et que c'est des personnalités fortes. Mais quand tu regardes Gilles Verdez, il en profite aussi. Tu vas voir sur La Quotidienne.
Oui, mais lui, c'est pas conscient.
Lui, c'était pas conscient, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est
ça, revenons sur Première Consultation. La raison pour laquelle on parle de cet album, c'est pour la chanson Nirvana. Nirvana qui aborde le thème du suicide, qui aborde le thème de la dépression, qui aborde aussi le thème de la nonchalance, de la déprime, de ne pas avoir de but dans la vie. Est-ce que pour vous, cette chanson, elle a su retranscrire ce qu'était la santé mentale dans les années 90? C'était un sujet mais totalement tabou à l'époque, on n'en parlait pas, et encore moins dans le milieu du rap. Vous en pensez quoi, vous?
Ah, tu ressens qu'il y a, bien sûr, c'est des thématiques sombres.
Malgré la mélodie un peu funky.
Ouais, bien sûr, tu sens les thématiques sont là, il en joue bien, c'est profond ces textes. Mais je suis voilà.
Est-ce que en l'écoutant, tu avais l'impression qu'il vivait ces textes-là?
Ah, bien sûr. Bah oui. Bah de toute façon, un bon son et un son qui passe les générations et qui traverse les générations, c'est un
son. Moi, quand j'ai découvert ce morceau il y a quelques années, quand j'écoutais ça, j'avais limite peur pour lui quand je l'entendais ce morceau. Je me suis dit, waouh, quand il a fait ce morceau, ça allait pas fort, quoi.
Ah, moi, la seule fois où j'ai eu ça, c'était pour avant qu'elle parte avec la section d'assaut.
Ah oui, c'est un autre délire. C'est un autre délire. Voilà. Mathis.
Mais moi, je trouve que c'est un précurseur, en fait. Parce que quand tu vois comment la scène rap est devenue, t'as une grosse part des rappeurs qui font ce qu'il a fait il y a 30 ans. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, c'est ce que j'ai à dire.
Est-ce que le sujet de la santé mentale, puisqu'on parle du milieu du rap, surtout dans le milieu masculin, chez les hommes, est-ce que c'est encore un sujet tabou? La santé mentale.
Bien sûr, bien sûr. J'en parlais, les milieux qui sont connus pour être machistes ou
virils,
masculinistes un peu. Du coup, parler un peu de faiblesse mentale, tu es un peu vulnérable en tant que personne.
Ouais.
Montrer que tu es vulnérable, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir du courage.
Et du coup, tu avais beaucoup de rappeurs à l'époque, Aya, MC Solar, NTM, qui parlaient justement de thèmes profonds. De la déprime, de la tristesse, de la solitude, du fait d'être père, c'était vraiment des sujets profonds. Aujourd'hui, on n'a plus trop ça. Est-ce que vous diriez qu'on a régressé dans le rap actuel?
Je pense que tout simplement, l'industrie du rap, en règle générale, a changé. Aujourd'hui, on veut juste des sons qui ambiancent.
Question d'un vieux con, est-ce que c'était mieux avant le rap?
Non, il ne faut pas dire ça.
Moi, c'était différent.
C'était différent.
Oui. Mais mieux, je ne sais pas.
C'est différent, mais en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué il y a quelques années. C'était à la sortie de l'album de Nekfeu, Étoile Vagabonde.
Ouais. Oh ouais.
Et c'était un album assez triste, assez noir. Et je me souviens, la réaction de certains critiques rap, c'était en mode « Oh, mais nous, on veut danser, on veut s'amuser, on ne veut pas réfléchir sur de grandes questions morale, sociétale. »
Après, tu sais que Nekfeu, Aurel San, 1995, Big Flo et Oli, généralement, on ne considère plus vraiment ça comme du rap.
Oui, mais lui, il est... Si, ah si, quand même.
Allez, non,
non, non, pour moi, c'est du rap. Pour moi, c'est du rap.
Non,
peut-être
ce
pas Big Flo et
Oli.
Mais en tout cas, pour moi, c'est du rap. Mais par exemple, pour des cérémonies comme les Victoires de la Musique, ils ne considèrent plus trop ça comme du rap. Ils disent que c'est urbain.
Mais je pense qu'ils les considèrent urbains parce qu'ils font tellement des gros chiffres aussi à mon avis, le rap est un peu...
Mais aussi, Nekfeu avait sorti avant Feu.
Incroyable, cet album.
L'album incroyable. Et du coup, il revient avec un album un peu plus deep. Et du coup, les réactions étaient plus mitigées. En mode, pourquoi il nous parle de ses problèmes relationnels, de ses déceptions amoureuses, de ses déceptions amicales, etc. etc. Et puis, il a fait aussi un documentaire sur ce qu'il vivait en ce moment, comment l'album a été conçu, son voyage au Japon. Et du coup, on s'est dit, mais est-ce que nous, consommateurs de rap, on veut consommer ce genre de rap ou pas? Ça en revient à la question, la santé mentale, ça évoque quoi? Moi, c'est important, ça évoque un tabou aussi, du coup, en lien avec le rap, parce que c'est signe de vulnérabilité, un signe de faiblesse. Et je te dis, il y a des gens de notre communauté.
Les poncifs, t'es pas un homme si tu pleures.
Si tu pleures, voilà.
Ouais, les conneries comme ça. Ouais.
Et du coup, y a des hommes noirs, des hommes arabes, maghrébins, qui sourient, qui rigolent toute la journée en face de leurs collègues, en face de leurs amis, en face de leur famille, mais qui pleurent tout seuls dans leur chambre, en fait. Doc Gineco. Dans les années 90, personne parle de santé mentale dans le rap. C'est-à-dire que c'est la police, c'est leur train de vie, leur quotidien, ce qu'ils traversent en tant que jeunes banlieusards ou jeunes issus de l'immigration. Mais ils n'abordent pas les thèmes, ou très peu d'artistes, très peu de rappeurs abordent le thème de la santé mentale. Et du coup, c'est un précurseur. On en parlait avec Selena Gomez. Il faut toujours quelqu'un qui prenne la parole en premier, qui fasse le premier move pour décomplexer tout un milieu, en fait.
Est-ce que Doc Gineco est culte.
Bien sûr.
Oui, ça veut dire...
Est-ce qu'il est culte? Oui, il est culte, mais est-ce qu'il est... C'est quelqu'un qu'on respecte en tant que personne? Je ne pense pas.
Ah, c'est deux choses complètement différentes.
Oui, pour moi, franchement, ouais. Là...
Culte, oui, il est. Ouais.
Est-ce que vous recommandez l'album?
Ouais, de
bien
ouf,
sûr.
De ouf.
Première consultation.
Allez, c'est pas mon style, mais c'est pourquoi pas.
Oui, il faut.
Pour la culture musicale, tout simplement.
Ouais, si tu veux t'éduquer au niveau.
Est-ce que l'album est culte, par contre?
Oui.
Bah oui.
Ça, oui,
bah,
c'est clairement. Sûr et certain.
C'est l'album qui
non,
fait
mais
la
est-ce
carrière
que l'album,
de Doc Gynéco.
Est-ce que c'est l'album qui est culte, première consultation, ou est-ce que c'est le morceau Nirvana?
Première consultation est culte.
Non, tout l'album est culte.
Moi, je pense, très sincèrement, je pense que le grand public connaît Première Consultation juste pour Nirvana. Je suis sûr que la majorité n'ont même pas écouté le reste de l'album.
Je sais pas, ça on saura jamais, mais si vous voulez vous éduquer en matière de rap français, il faut écouter des albums cultes.
Quoi, ouais.
Il faut écouter des albums cultes et il faut écouter des artistes cultes. Ceux qui ont traversé toute l'époque, des années 80, la fin des années 80 et des années 90. Quoi.
Première Consultation, c'est le premier album de Doc Gynéco sorti en 1996. Il n'avait que 22 ans lorsqu'il a créé probablement l'un des albums les plus iconiques et importants du rap français. Allez l'écouter, faites-vous votre propre avis. C'est ainsi que Dans les bacs se conclut.
Je veux changer d'air, changer d'atmosphère. Je vais me foutre en l'air comme Patrick Devers. Me droguer aux aspirines façon Marilyn. Il faut que je me supprime comme Bérégo voit. Aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le Nirvana comme Bérégo voit, clic clic boum.
Commence pas à parler, à dire des choses que tu pourras pas assumer. On va te plier en deux, on va te faire manger tes lunettes. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul. Je vais te lécher la chatte. Fais attention, respecte ce mec là, c'est un adulte. Ah, mais... Il a 50 ans.
Et il est temps de parler cinéma avec Happiness Therapy dans la rubrique Vidéo Club.
Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de complètement culte, qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite, appelée Vidéo Club, pour les incultes. Voici leur verdict.
David O. Russell, c'est un metteur en scène qui adore raconter des histoires burlesques. En plus de l'aspect comique, il parvient à y insérer de la dramaturgie. Mais il est vrai que ses films ne parlent pas forcément à tout le monde. Si ses œuvres sont très souvent nommées aux Oscars, le public n'est pas toujours au rendez-vous. La faute peut-être à des intrigues peu inspirantes pour le grand public. C'est pour ça que l'on dit que le cinéma de David O. Russell s'adresse à un public de niche. Mais pour accompagner ses récits et attirer le grand public, le réalisateur de 66 ans fait toujours appel à des castings 5 étoiles pour porter ses projets. C'est le cas avec son sixième long-métrage « Happiness Therapy », sorti en 2012 avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jackie Weaver ou encore Chris Tucker dans les rôles principaux. Adapté du roman de « Silver Linings Playbook » de Matthew Quinn, le film fut l'un des grands favoris à la 85e cérémonie des Oscars avec 8 nominations. Cette œuvre a permis à Jennifer Lawrence de s'établir en tant que future star du cinéma en remportant l'Oscar de la meilleure actrice à seulement 22 ans. Traitant de la santé mentale et de la dépression, Happiness Therapy raconte l'histoire de Pat, tout juste sorti de l'hôpital psychiatrique. Il emménage chez ses parents et rencontre alors une fille mystérieuse appelée Tiffany qui va l'aider à aller de l'avant. On va rentrer dans le vif du sujet. Mathis, qu'as-tu pensé de Happiness Therapy ?
Eh bien, ma grande surprise, c'est un très très chouette film, une belle histoire, je trouvais ça... très chouette. Et en fait, la manière dont il parle des problèmes mentaux, je trouvais ça original et plutôt malin, en fait. La manière dont il l'amène et aussi de rassembler les deux acteurs principaux qui ont tous les deux un problème. Et je trouvais ça original et chouette. Franchement, c'est un film que je recommande.
Ouais, un super film émouvant avec un jeu d'acting vraiment sympa. Déjà deux acteurs formidables au devant de...
Bradley Cooper commençait sa transition vers le drame à ce moment-là. Ouais, et vraiment... Jennifer Lawrence a complètement explosé. Ah, depuis Happiness Therapy, elle a fait une carrière extraordinaire.
Et je comprends pourquoi, parce que c'est une grande réussite dans ce film. Donc oui, voilà, ils ont su scénariser encore une fois cette thématique pas facile à scénariser, comme l'ont très bien fait 13 Reasons Why. Donc chapeau le film.
Oh, moi aussi, c'est un super film qui m'a marqué. Franchement, j'ai adoré le jeu d'acteur. Et puis, il y a l'aspect psychologique et puis l'aspect psychiatrique. Le fait que ils prennent en compte les problèmes psychiatriques que peuvent rencontrer certaines personnes et certains patients. Ça, j'ai trouvé ça touchant. Et puis, le rôle des parents aussi dans ce film aussi, c'est super. Enfin, moi, ça m'a touché, quoi. C'était super intéressant.
Quels sont pour vous les points positifs et s'il y en a des points négatifs dans ce film ?
Comme je l'ai dit, le point positif, moi justement, je trouvais l'histoire tournée autour de deux amoureux qui ont en fait un problème mental, comme j'ai dit au début. Mm-hmm. Et le point faible, bon, le scénario est un peu basique, c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est peut-être un peu le point faible, mais sinon, il n'y a rien à dire.
Moi, je dirais que le point fort, c'est que justement, ça n'a pas été trop cliché. Ils n'ont pas ridiculisé aussi les patients atteints de problèmes psychiatriques, de problèmes émotionnels.
Justement, c'était ma prochaine question, parce qu'on parle d'une famille qui est quand même assez défaillante, avec le père qui est accro au jeu, si ma mémoire est bonne, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Le fils, la mère, la petite amie. Donc, c'est vraiment une famille dysfonctionnelle, quoi, comme on peut en voir partout dans les films américains. Est-ce que ce thème de la famille dysfonctionnelle, c'est pas cliché ? Est-ce que c'est pas un truc que l'on voit ouais, qu'au cinéma.
T'as besoin d'un peu de clichés aussi dans ce genre de film. Et parfois, c'est aussi avec des tout droits, comme Mathis parlait de la simplicité de l'histoire, mais parfois, c'est les routes tout droites qui font les meilleures routes. C'est les scénarios les plus basiques.
Tu veux dire
qui
que même si c'est cliché, tu parviens à trouver des éléments et donc...
Cliché, mais bien scénarisé.
Voilà, c'est ça. La société est bourrée de clichés. Pour raconter une histoire, on va reprendre certains clichés, certains storytelling, pour donner à la fin une leçon au spectateur, en fait. Et si c'est bien amené, on va pas se lasser. Si c'est mal joué, si c'est mal scénarisé, comme Maxime l'a dit, on va se lasser. Mais là, on se lasse pas parce que c'est bien amené et c'est bien joué, en fait.
En fait, c'est assez court et c'est bien rythmé. Pour le coup. On sent pas. Ouais. Je sais même pas si le film fait deux heures. En tout cas, s'il fait deux heures, pas du tout.
Hein. Ah non.
Alors, Happiness Therapy aborde les thématiques de la dépression et de la bipolarité dans le genre de la comédie romantique. Est-ce qu'on peut aborder de tels sujets avec légèreté ? Est-ce que pour toi, le sujet a été bien exploité?
Bah justement, je trouve que leur mission était réussie parce que, allez, on le sait, la santé mentale, c'est un sujet compliqué, très tabou, on en a parlé ici pendant toute l'émission. Et là, le réalisateur, il a fait en sorte que, il démocratise le sujet et avec cette légèreté autour de leur danse, à la fin, le concours de danse qu'ils vont faire, cette relation qui s'installe, etc. Avec des touches d'humour aussi. Hein.
Donc tu dirais qu'en choisissant l'angle de la comédie, le message est tout aussi percutant?
Ah oui, et là, il faut qu'il soit bien amené.
Tu t'attaches au personnage et parce qu'il y a un grain d'humour.
Et peut-être même plus, tu sais, parfois, la comédie, en règle générale, c'est monstrueux.
Il y en a beaucoup qui te disent, avec des sujets aussi lourds, il faut que ce soit vraiment dur, que tu vises de tes larmes.
Tu restreins une population.
Si c'est trop dur, ça devient gênant.
Et ça devient lourd.
Ça devient lourd et angoissant et stressant.
Voilà.
Alors que si tu amènes, si tu rajoutes un grain d'humour, on va s'attacher au personnage,
en fait, c'est un angle.
On va avoir de la compassion. Et justement, il y a un lien entre santé mentale et la compassion.
Moi, dans le cas de Happiness Therapy, à la fin du visionnage, je vous avoue que j'étais dans un bon mood. Ça m'a mis de bonne humeur, j'étais assez content. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être vraiment de très mauvaise humeur, pas très bien, et une fois que vous avez soit écouté un album, vu une série ou un film, lu un livre, est-ce que ça vous a aider à aller mieux? Est-ce que c'est arrivé?
C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai justement écouté un mec qui disait comme quoi la musique jouait sur tes émotions et que c'est justement comme ça que tu peux parfois changer. Tu sais, il disait pour sortir d'une dépression, fais tout pour ne pas accentuer cette dépression. N'écoute pas de musique triste, ne regarde pas de films tristes, écoute des musiques joyeuses, écoute des podcasts joyeux, regarde des films comédiques, va sortir avec tes potes par exemple. Et du coup, en fait, bien sûr qu'un film va jouer sur ton émotion ou même au-delà de ça va jouer sur ton caractère. Je sais pas si on est déjà sorti avec un film. Moi, je sors d'un film, j'ai l'impression que j'ai regardé James Bond. Je regarde tout le monde. C'est moi 007. Tu vois.
Oui, il a raison. Hein,
est-ce qu'une œuvre peut avoir des vertus thérapeutiques?
Bien sûr. On peut sortir d'un film heureux. On peut sortir d'un concert heureux.
Il y avait justement avec Harry Potter, l'actrice de Luna Lovegood, petite anecdote. Ça a justement permis de guérir sa dépression. C'était le rôle de Luna à travers le livre Harry Potter. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a écrit une lettre à J.K. Rowling. Et c'est comme ça qu'elle a obtenu son rôle d'ailleurs. Parce que ce livre l'avait sauvé sa petite vie.
Merci pour l'anecdote.
Et voilà, alors, le film a été nommé à 8 reprises aux Oscars. Il n'a remporté qu'un seul Oscar, c'est celui de la meilleure actrice pour Jennifer Lawrence. J'ai quand même envie de vous donner la liste des films nommés dans la catégorie meilleur film. Il y a Argo de Ben Affleck qui a remporté l'Oscar du meilleur film cette année-là, Amour, Les Bêtes du Sud Sauvage, Django Unchained de Tarantino, Happiness Therapy, Lincoln de Spielberg, Les Misérables, L'Odyssée de Pi et Zero Dark Thirty. Est-ce que pour vous, Happiness Therapy a l'ambition a l'envergure de remporter l'Oscar du meilleur film.
Non, il y avait trop de bons films à cette époque.
Ah, l'Odyssée de Piste,
la réalité est trop grande.
Argo, c'était un film historique incroyable. C'est une comédie, c'est un film familial qui aborde le thème de la santé mentale.
On récompense très peu les comédies, comme si la comédie c'était un sous-genre dans les cérémonies d'Oscar.
Si. Mais y a,
Alors que pourtant, le thème que traite Happiness Therapy, franchement, il est assez universel. Il aurait pu remporter l'Oscar du meilleur film. Moi, ça m'aurait pas choqué en tout cas.
Mais La La Land, qui est une comédie, ils ont tout raflé à l'époque.
La La Land n'a pas remporté l'Oscar du meilleur film.
Mais ils ont raflé la plupart des Oscars, on est d'accord.
Oui.
Ça dépend, mais là, je pense qu'à cette époque-là, il y avait trop de bons films. À côté.
Ça fait déjà 12 ans que le film est sorti. Est-ce que vous diriez qu'Happiness Therapy, il est culte?
Non. c'est dommage parce que c'est un bon film.
Et ça répond à la question, mais est-ce qu'il a l'envergure de remporter un Oscar du meilleur film? Bah non, parce qu'il n'est pas culte justement. S'il avait été culte comme Argo, comme l'Odyssée de Pi...
Je suis pas d'accord avec vous pour le coup, moi je pense qu'il est culte pour deux raisons. Déjà de une, les acteurs, Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Je pense qu'on va se rappeler de Happiness Therapy, si on est fan de cinéma, on est assidu, on adore l'histoire. Je pense qu'on va se rappeler de ce film en se disant, c'est avec ce film-là que Jennifer Lawrence a explosé et est devenue une grande actrice. Ça a été le début d'une carrière exceptionnelle. Et la deuxième raison, je pense, c'est le thème de la santé mentale qui a été quand même abordé d'une manière assez inédite, assez audacieuse. Donc, je pense que pour moi, c'est culte. Et est-ce que vous recommandez Happiness Therapy?
Oh, de fou. Allez-y, vraiment, c'est un truc à voir.
Happiness Therapy de David O. Russell avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence dans les rôles principaux. Le film est disponible sur Netflix pour le moment, donc si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez pas, faites-vous votre propre avis. C'est ainsi que la séquence Vidéo Club se conclut. Et c'est aussi le moment de dire au revoir à Mathis. Hein. Mathis m'a dit 22h pile, je me taille.
Voilà.
Il est 22h01, qu'est-ce que tu vas faire?
Je dois rentrer chez moi, mec.
Mais rentre.
Merci. Mais dis-moi une prochaine.
Salut.
Salut.
La porte est là-bas.
Au revoir. Ciao, en légende.
Ah, le pauvre. Ça fait mal au cœur. What are you doing? What happened? How come you weren't in the letter? You weren't outside? What the hell's going on? I can't do it. What do you mean you can't do? Can't do what? I can't give the letter to Nikki. Tiffany, what are you talking about? What do you mean you can't give the letter to Nikki?
Okay, because what am I getting in return? What are you doing for me?
You said if I wrote a letter, you'd get it to Nikki. That was
the
setup?
I do this time after time after time. I do all this shit for other people. And then I wake up and I'm empty. I have nothing.
What are you talking about? You seem like you're a tough girl to me. Well, you just do things on your own.
I always get myself in these fucking situations. I give everything to other people and nobody ever, I don't get what I want, okay? I'm not my sister.
Et il est temps de passer à l'avant-dernière rubrique de cette émission spéciale, génie ou escroc.
Please, don't worry so much. Because in the end, none of us have very long on this earth. Life is fleeting. And if you're ever distressed, cast your eyes to the summer sky. When the stars are strung across the velvety night, and when a shooting star streaks through the blackness, turning night into day. Make a wish. Think of me. Make your life spectacular. I know I did.
Cela fait 10 ans que cet immense talent intemporel ayant marqué tant de générations nous a quittés prématurément. On se souvient encore de l'annonce de sa disparition dans les journaux télévisés. Ce fut le choc, la stupéfaction, une tristesse infinie a envahi le milieu hollywoodien qui venait de perdre l'un des acteurs les plus aimés par le grand public. Qu'il disparaisse, c'est une chose, mais qu'il se ôte la vie en est une autre. Personne ne s'attendait à ce qu'un homme qui paraissait aussi joyeux et optimiste décide de s'en aller sans nous dire au revoir. C'est en apprenant son acte que l'on s'est rendu compte que derrière ce sourire si communicatif et réconfortant se cachait une immense souffrance et un désespoir provoqué par la maladie à corps de Lowry. Il avait ce don de toucher tout le monde avec son talent. Les familles, les enfants, les férus de drame, les passionnés de comédie. Il avait cette faculté de passer d'un registre à l'autre avec la même justesse et intensité. gamer insoupçonné, il a appelé sa fille Zelda, une référence qui a su toucher la communauté du jeu vidéo. On ne saura jamais si ce talent avait goût au bonheur à un moment de son existence. Mais une chose est sûre, il a toujours fait preuve de sincérité avec le public qu'il aimait du profond de son âme. Sans lui, peut-être qu'il aurait rejoint l'au-delà bien plus tôt. Mais bien que cela fasse une décennie, on continue de parler de lui. Ses films alimentent les chaînes de télé et les plateformes de streaming. Beaucoup de ses rôles sont devenus cultes et incontournables. Le professeur John Keating dans Le Cercle des Poètes disparu. Le docteur Sawyer dans L'Éveil. Peter Pan dans Hook. Le génie dans Aladdin. Madame Doubtfire. Alan dans Jumanji. Le professeur Brainard dans Flubber. L'homme bicentenaire. Le docteur Sean McGuire qui aide ce bon Will Hunting. Il y a tellement de rôles qui nous ont marqués. Tellement de rôles qui nous ont impactés. Moi, à titre personnel, il fut un temps où je me réveillais en criant « Good morning Vietnam !» Ainsi, chaque 11 août, jour de son départ vers les cieux, nous nous levons sur notre chaise pour le remercier et nous crions « Oh capitaine, mon capitaine !» Robin Williams, génie ou escroc ?
Pour moi, il n'y a pas de débat. Le débat, il est forcé, on va dire. C'est un génie. Pour moi, s'il n'était pas décédé, il serait rentré, je pense, dans le panthéon des plus grands acteurs de l'histoire.
Il est dans le panthéon des plus grands acteurs.
Quand je te parle panthéon, c'est le top 3, top 4 pour moi. Moi, en tout cas, il avait ce talent-là. Il a des films si cultes, vraiment grand public.
C'est incroyable d'enchaîner autant de films cultes et intemporels quand même.
Ah, autant, c'est ça moi qui me choque.
C'est au-delà d'un génie, d'un escroc. C'est légende ou pas légende, en fait. C'est
ouais,
une légende.
C'est ça, opposant directement la question s'il est culte ou pas.
Voilà, c'est ça. C'est pas, il est pas culte, c'est
légendaire. Et pourquoi est-ce que je veux parler de Robin Williams dans Génie ou escroc ? Ben, c'est parce que pendant des années, on a cru que c'était l'optimisme en personne, que c'était un homme joyeux, que tout allait bien. Et du jour au lendemain, on apprend qu'il est malheureux, qu'en vrai, il n'a plus le goût à la vie et il nous a quittés comme ça, sans nous dire un mot. Mais du coup, est-ce qu'il n'était pas un escroc dans ce sens-là ?
Non, en fait, il y a un dicton qui dit que les gens qui rigolent le plus sont les plus malheureux tout seuls quand ils rentrent à la maison.
Le fameux mythe du clown triste.
Ouais, c'est le clown triste. Et en fait, moi, je fais un parallèle avec le chanteur de Linkin Park aussi. Chester Bennington, qui s'est pendu aussi. Et en fait, il se trouve que 2-3 jours avant son acte, son suicide, on le voyait tout sourire, heureux et tout ça. C'est pas parce que tu rigoles que t'es forcément heureux.
Maxime, toi, t'étais peut-être trop jeune, t'as peut-être pas connu ce moment en direct où on a annoncé la mort de Robin Williams. Mais toi, Arnaud, comment t'as réagi quand t'as appris sa disparition ?
J'étais triste, j'étais étonné. Et en même temps, pas étonné. Parce que c'est pas parce que tu rigoles, encore une fois, que t'es forcément heureux. Mais je suis étonné parce qu'il arrivait au bout de sa carrière. Il aurait pu prendre peut-être une pause.
Pourquoi est-ce qu'il s'est ôté la vie ? C'est parce qu'il a été diagnostiqué d'une maladie qui se rapproche de celle de la Parkinson. Et donc, comme il a su qu'il allait être diminué et qu'il pourrait plus continuer à vivre comme il le souhaitait, il a préféré passer à l'acte, quoi.
Mais... Non, c'est triste. Et puis, ça reflète aussi un malaise profond de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'âge, cette joie de vivre, mais qui souffrent beaucoup en même temps, en fait.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui symbolise à Hollywood Robin Williams avant et après son acte ? Pour moi, c'est la fin d'un mythe à Hollywood, dans le sens où Hollywood nous a toujours été vendu comme le lieu où, une fois que tu y es, c'est bon, t'as accompli tes rêves, c'est la galéjade, c'est la fête, c'est le bonheur à l'état pur 24 heures sur 24. Mais en réalité, il n'y a jamais eu autant de destins brisés qu'à Hollywood. Il n'y a jamais eu autant de drames, il n'y a jamais eu autant de désillusions qu'à Hollywood. Et Robin Williams, son décès, pour moi, il a incarné ça. Pour moi, c'était la fin du rêve hollywoodien, en tout cas.
Enfin, le masque tombait, quoi.
Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a certaines catégories de personnes, certaines catégories de stars qui ne supportent pas leur starification, en fait?
C'est une question qui est très tendue.
Oui, il y en a. J'ai un exemple, là. Robert Pattinson déteste la médiatisation. Tu le vois pas. Il n'a pas de réseau. Et puis, il ne apparaît devant les caméras que pour faire la promo de ses films. Une fois que c'est fini, tu ne le vois plus. Et pour moi, ça fait partie de cette nouvelle génération qui va s'installer à Hollywood. Ce sont des gens comme Joaquin Phoenix, comme Kristen Stewart, comme Robert Pattinson, qui veulent vivre de leur métier parce que c'est leur passion d'être acteur. Mais par contre, les à côté...
Non, mais qui veulent être acteur, mais pas spécialement une star.
C'est comme le club...
Pendant des années, on t'a dit que si tu veux être une star, tu veux être acteur, il faut que tu passes par ça.
Et eux, c'est peut-être l'inverse.
Et c'est peut-être pour ça que ça a créé autant de drames, autant de solitude, autant de dépression. Bah, parce que les gens jouent un jeu dont ils ne sont pas maîtres et ils n'ont peut-être pas les cartes pour pouvoir jouer ce jeu correctement.
Parce qu'ils sont plus maîtres de leur vie privée. Et du coup... pète les plombs, quoi.
Les gens comme Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, ils ont des mentales incroyable pour supporter tout ce qu'ils supportent.
Ils aiment ça, peut-être qu'ils aiment ça. Il y a des gens, il y a, bah, y a des stars qui adorent la lumière. Hein.
Bah, bien sûr, ça, bah, je suppose.
Et puis il y en a d'autres, bah, c'est comme le club des 27. Leur starification, le fait qu'ils passent de l'ombre à la lumière du jour au lendemain, a fait qu'ils ont pété un câble et ils sont tous, pour la plupart, décédés à 27 ans à cause de la surconsommation de drogue, la surconsommation d'alcool, plus allié à ça la dépression, t'es perdu dans ta vie, t'as plus de repères, tu te réfugies dans l'alcool, dans les excès, dans les addictions.
Est-ce que la mort de Robin Williams, ça a permis d'avoir une prise de conscience sur les travers d'Hollywood, ou au contraire, au bout d'une semaine, on lui a rendu hommage, on l'a oublié et on est passé à autre chose?
Moi, je pense que ça fait mal sur le coup, mais il y a tellement d'événements tristes tous les jours qu'on n'a même pas le temps de
pleurer,
pleurer un mort. Directement, il y a un autre drame et on s'intéresse à l'autre drame le lendemain.
Ah, il y a eu beaucoup d'émotions à la mort de Robin Williams.
Oui, ça je ne le dis pas, je le nie pas. Mais la vie continue, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est triste à dire, mais c'est ça, en fait. Vu que l'être humain est faible, on va recommencer.
C'est surtout, tout simplement qu'il y a pire. Enfin,
mais
je
ne sais
triste,
pas si
hein,
c'est fascinant ou triste. Je vois quand même des gens plus s'émouvoir pour la disparition de Robin Williams.
Dire.
Que pour la disparition d'un proche ou pour d'une personne de son entourage.
Oui, ou même pas. Par exemple, tu vas pleurer la mort d'un acteur qui est décédé à 80 balais et tu vas fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde et le nombre de morts. En quoi, par exemple, la mort de Johnny Hallyday est plus importante qu'un...
Tu vas te dire, Johnny Hallyday, ça a quand même apporté beaucoup de joie.
Bah, peut-être, ouais, mais bon...
La musique, ça les a accompagnés, ça représente
part,
leur jeunesse.
Ouais, mais quelque part, tu fais un peu une hiérarchie en termes d'importance humaine, quelque part. En quoi est-ce que parce que quelqu'un a
après,
apporté
y a toujours
plus
une hiérarchie
que...
en fait, dans l'humanité.
Monsieur et madame tout le monde, ils ont aussi leurs problèmes, en fait. C'est-à-dire, on pleure une célébrité, mais la vie, elle continue. On doit aller payer nos factures. On a aussi nos problèmes psychologiques. C'est triste. Michael Jackson est décédé, c'est triste. Mais on passe à autre chose. La princesse Diana est décédée, mais c'est triste. Mais on passe à autre chose. Est-ce qu'on tire des leçons ? Ah oui, il fallait pas. Paul Walker a roulé trop vite. Il faut faire attention. Il faut sensibiliser sur la vitesse. Et puis on passe à autre chose. Il y a des accidents. Malheureusement.
Mais du coup, pour rester dans le cas de Robin Williams, est-ce que son suicide a permis de mettre en avant la santé mentale à un moment clé ? Parce que c'est il y a 10 ans. Parce que ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on a parlé d'œuvres de différentes périodes. 13 Reasons Why, c'était en 2017. Première consultation en 1996. Happiness Therapy en 2012. Là, maintenant, c'est la mort de Robin Williams, le suicide de Robin Williams en 2014. Est-ce que pour vous, progressivement dans le temps, il y a une prise de conscience de plus en plus importante, ou c'est vraiment là, maintenant, avec la décennie 2020, que ça s'est accéléré ?
C'est intéressant ce que tu dis. C'est que je pense qu'à chaque mort, c'est le son. Mais est-ce que ça change pour autant les choses ?
Non.
Je ne sais pas. Par exemple, la mort de Diana, elle a été causée par les paparazzi. Mais est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que ça a conscientisé les paparazzi ? Pas du tout. La mort par pendaison de Robin Williams, ça a mis en lumière les problèmes de santé mentale, mais pour un laps de temps. Moi, je pense que, par exemple, l'émission qu'on fait en ce moment, c'est intéressant, parce que nous, on a une petite émission, une petite audience.
Petite émission, mais grande passion.
Mais grande passion.
Exactement, le plus important.
Grande passion, et qui traite des sujets d'intérêt général, en fait. Mais je pense que si on met notre pierre à l'édifice, on peut changer les choses, on peut conscientiser les gens, et je trouve que c'est pas mal.
C'est tout ce qu'on espère.
C'est ça, c'est ça. Et donc, est-ce que la mort de Robin Williams, elle a conscientisé les gens ? Peut-être, ou peut-être pas, ou pas assez. Mais je pense que ça a bouleversé les gens, en fait.
Qu'est-ce qui reste maintenant de Robin Williams ?
Son héritage, hein, Maxime.
Son héritage qui est monstrueux, des films, voilà, on en parlait. Allez, quand même le nombre de rôles cultes.
Et encore, j'ai pas tout cité. Hein.
Non, mais vraiment, je pense, honnêtement, moi, je crois que c'est l'acteur qui a le plus
de rôles cultes.
De rôles cultes.
Je suis d'accord avec toi.
Différents, et surtout dans une variation de type de rôle. Enfin, je veux dire, il peut autant jouer Peter Pan chez les enfants que jouer un psychologue dans
Good Will Hunting.
Ouais, allez, il était juste monstrueux.
Il a remporté l'Oscar du second rôle.
Écoute,
le
cercle des poètes disparus.
Je pense que je ne prends pas trop de risques en disant que Robin Williams est culte. Mais par contre, voilà, ça fait déjà 10 ans. Est-ce que dans 10, 20, 30 ans, on va encore se souvenir de Robin Williams ?
Oui, ces films ont marqué une génération.
Ça, c'est sûr.
Moi, je suis persuadé de ça.
Mais si t'es un tant soit peu intéressé par le cinéma et son
même
héritage.
Pas spécialement. Pour moi, il ne faut même pas spécialement. C'est ça, en fait, qui est fou avec lui. Il ne faut pas être intéressé par le cinéma, vu qu'il va arriver sur tes écrans. Il touche tellement une audience différente. Allez, Peter Pan, tu peux le regarder quand tu auras 5 ans. Nos gosses, ils le regarderont. Un film comme Les Cercles des Poètes Disparus, tu le regarderas. Donc automatiquement son visage va revenir. Donc pour moi, oui, on n'entendra pas encore parler de lui. Peut-être pas, on ne se souviendra pas de son nom, mais son visage, lui, il restera.
Mais pour moi, on se souviendra de son prénom et de son héritage, parce que c'est un grand acteur, en fait. Les grands sont destinés à être retenus, à être étudiés aussi. Et dans les écoles de cinéma, on étudiera son jeu d'acteur, ses films, ses choix. Donc oui, il est culte et il est, c'est une légende. C'est, comme je disais, c'est pas une question de culte ou pas culte, c'est une question de légende ou pas légende. C'est un grand acteur.
Et là, il n'y a pas de débat. C'est, là, une légende.
Ouais, c'est une légende.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce monstre sacré du cinéma américain, Robin Williams. La rubrique génie ou escroc se conclut. Non, complètement crazy.
You know, I'm not going to pretend that I know what's going on in the mind of a teenager. All I'm saying is Kyle made a mistake. If you're that depressed, reach out to someone. And remember, suicide is a permanent solution to temporary problems.
On conclut tout de suite cette émission spéciale avec le débat de la semaine. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir artiste ? Le besoin de reconnaissance ? L'envie de s'exprimer ? Généralement, un artiste use de son vécu pour alimenter ses œuvres. Et on se rend compte que leurs maux et traumatismes ont donné naissance à des œuvres profondes qui ont rencontré du succès. C'est en étant au plus bas moralement qu'ils sont au plus haut créativement. Mais est-ce toujours le cas ? Donc pour ce débat autour de la santé mentale, on va y aller crescendo. Alors déjà, première question, est-ce que la santé mentale est le nouveau sujet prioritaire des générations futures ? Le sujet numéro un à traiter ?
Non, moi je mettrais l'écologie loin devant.
C'est vrai, il y a l'écologie, il y a la démocratie, les questions démocratiques.
L'économie. Le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat.
Mais ouais, non, pour moi, c'est pas devant, non.
Mais il y a aussi cette question.
Il y a une place.
Mais là, on ne peut pas traiter plusieurs sujets en même temps.
Si, si, mais c'est parce que tu m'as dit la place numéro un. Ça, pour moi, non. Mais après,
je pense que généralement, quand on s'éparpille, on ne fait pas du bon boulot, j'ai l'impression, en politique ou en termes de société, pour avancer. Moi, j'ai l'impression qu'il faut prendre vraiment sujet par sujet et y aller le temps qu'il faudra. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi que, vu l'état actuel de la société, moi je pense pas que la santé mentale va être le sujet prioritaire. Mais est-ce un sujet si nouveau que ça dans le monde culturel ?
Les gens en parlent de plus en plus, les langues se délient, entre guillemets. Il n'y a plus de tabou, il y a de moins en moins de tabou. On ose parler, on ose prendre la parole sur ces luttes intérieures. Mais je sais pas si ça deviendra le sujet numéro...
Mais qu'est-ce qui a changé en 10 ans par rapport à ce sujet ? Le fait que... On ose s'exprimer.
Oui.
Maintenant, avec l'abondance de plateformes, de réseaux sociaux, on n'hésite pas à dialoguer, à s'exprimer.
S'exprimer pour le meilleur et pour le pire. Les réseaux sociaux sont faits pour ça, en fait. Donc, la santé mentale n'y échappe pas. Et je pense que les gens ils vont en parler directement à leur communauté, les influenceurs, les stars, les sportifs. Ils vont s'exprimer plus facilement. Et s'ils peuvent aider les gens, s'ils peuvent sensibiliser les gens...
Alors évidemment, dans complètement culte, on traite de ce qui est sera culte dans tout ce qui est possible, mais généralement, c'est la culture, c'est les médias. Donc évidemment, moi, j'ai eu envie de m'intéresser au statut d'artiste pour le débat de cette semaine. Et est-ce qu'en tant qu'artiste, on n'a pas plus de choses à dire, à exprimer en étant triste qu'heureux dans les œuvres ?
Je ne sais pas. Ça, c'est intéressant.
Règle générale, qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans la vie de tous les jours ?
Mais moi, c'est super intéressant parce que l'artiste, s'il ne s'exprime pas par son art, que ce soit de la peinture, que ce soit du théâtre, que ce soit de la musique, que ce soit du cinéma, il va être mal, de toute façon, qu'il soit heureux de base ou pas. Un artiste a besoin de s'exprimer. Et je dirais, en règle générale, l'être humain a besoin de s'exprimer pour se sentir bien. Et du coup, surtout l'artiste.
Oui, mais justement, il ne va pas s'exprimer lorsqu'il se sent bien. Quand il se sent bien, il aimerait profiter de cet état. Donc il ne va pas faire de l'art.
Moi je crois que vous allez trop loin là. Moi,
Tu peux être heureux, tu peux être heureux.
Mais pourquoi est-ce qu'il parle de ce sujet sensible ? C'est quand tu regardes par exemple dans le journalisme, aujourd'hui qu'est-ce qui fait cliquer sur un article ? C'est l'émotion. C'est l'émotion aujourd'hui qui malheureusement qui prime sur beaucoup de choses. Donc si tu veux toucher un public, tu vas jouer sur l'émotion. Après aussi quelque part, on va pas faire un son parce qu'on est heureux, on va faire un son qui ambiance. C'est différent. Parce que quand on est en soirée, on veut pas, c'est pas un son heureux qui va nous faire bouger, c'est un son qui bouge qui va nous faire bouger, si on se comprend. Alors que quand on est dans un mood un peu plus triste, un peu plus calme, là, on veut, et qu'on veut écouter de la musique triste, ça va nous apporter en gros quelque chose. Mais
après, t'as plein d'artistes qui se servent de leur malheur, de leur tristesse pour créer. L'exemple qui me vient en tête, c'est Kanye West. Kanye West est conscient d'être atteint de bipolarité, mais il refuse de prendre ses traitements parce qu'il dit « Je suis beaucoup plus créatif et productif sans les médicaments, sans le traitement. » Il y en a qui jouent justement de ce côté tristesse.
Il y a Frank Ocean qui a une musique, un univers assez triste, assez noir, et ça touche une certaine... communauté, en fait. Il a sa communauté.
Jim Carrey, c'est un clown, il fait rire tout le monde, mais on sait pertinemment que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un d'assez réservé, d'assez triste.
Ou le rappeur Luigi. Luigi aussi, qui a des paroles... Enfin, moi, j'ai vu des gens pleurer à ses concerts. Mais ça s'adresse à une certaine communauté, à un certain type de personnes. Bon, est-ce que l'artiste a besoin d'être malheureux pour créer ? Je ne pense pas. Mais tu peux pondre des classiques en étant triste.
Dans cette thématique, Eminem a déclaré dans une interview, au moment de la sortie et promotion de son avant-dernier album « Music to be murdered by », il a déclaré qu'il n'a jamais été aussi productif, intéressant et créatif que lorsqu'il se sentait mal dans sa peau. Et lorsqu'il allait bien, lorsqu'il a trouvé, on va dire, de l'équilibre dans sa vie avec sa fille, et ben, au moment où il réfléchissait à bosser sur de nouveaux projets, il ne trouvait pas d'idées, il n'avait rien à dire. Il fallait attendre qu'il ait encore ce spleen qui revienne en lui pour exprimer ses émotions dans son nouvel album. Donc, est-ce un passage obligatoire pour les grands artistes ?
Ouais, et bah tu sais quoi ? Moi, j'ai commencé un livre il y a 2 ans sur une émotion. Donc, c'était un livre d'amour. J'en ai écrit un livre et finalement, j'ai jamais su le finir. C'est pourquoi ? Parce que j'étais plus dans cette émotion-là. Et du coup, je crois, oui, que l'émotion crée la chose et que l'émotion permet justement de faire des grandes choses et que sans ce facteur d'émotion, il faut vraiment être très, très grand et très complet.
Tu sais que c'est incroyable parce que quand j'étais à l'université, je devais avoir 21-22 ans, je m'étais mis à écrire une histoire. Il y avait déjà, je crois, une 60aine de pages. Ouais. Et depuis, j'ai complètement lâché.
Et tu l'as fait sur une émotion aussi ?
Ouais.
Et ben, c'est ça,
sur un truc
moi.
Que j'avais vécu en particulier.
Et vraiment pas dégueu. Tu lui dis, allez, j'ai dû faire, ouais, voilà, 80, 100 pages comme non, toi.
En plus, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'étais hyper content de moi. Je me dis, je suis créatif, j'arrive à raconter un truc qu'on n'a jamais entendu avant. Et du jour au lendemain, j'arrive plus. J'arrive plus, je l'ai laissé dans un coin, dans un placard.
Et je réessaye parfois, mais ça colle plus. Tu vois, là aussi, quelque part, c'est la personne que j'étais il y a 2 ans, peut-être, c'est plus la même personne aujourd'hui. On évolue, surtout à mon âge.
Est-ce que votre expérience s'applique à tout le monde ?
Mais je pense qu'on n'échappe
pas... On n'a pas tous l'envie d'être artiste, on n'a pas tous l'envie de créer quelque chose de culturel. Déjà, je pense que l'envie d'aller dans l'univers culturel, l'artistique de façon générale, il y a quelque chose, au fond, qu'on a envie de régler. Mais je pense qu'un artiste, c'est ma théorie, vous pouvez être en désaccord avec moi, moi, je pense que la tristesse est une part intégrante de l'artiste. Je pense.
Bien sûr. Pour moi, c'est même l'émotion. C'est l'émotion plus.
Oui, voilà.
C'est surtout la tristesse qui va alimenter la machine.
Parce que c'est l'émotion qui fonctionne le plus.
J'ai une question pour vous. Est-ce que Michael Jackson, quand il a pondu Thriller, Dangerous...
C'est un ovni. Tu vois, moi, c'est ce que je te parle. Il y a des ovnis.
Est-ce qu'il était triste ? Est-ce que Supreme NTM, quand ils ont sorti...
Michael Jackson a eu une enfance difficile.
Oui, mais est-ce que le Supreme NTM... Quand leur maison de disques, quand ils ont signé pour la première fois en maison de disques et qu'ils leur ont dit il faut que vous créiez 3 albums, est-ce qu'ils étaient tristes ?
Ils étaient en colère. Ça encore, c'est une autre émotion.
Pour moi, c'est l'émotion moi, qui fait.
Voilà,
qui...
L'émotion, mais pas la tristesse.
Mais la joie, c'est une émotion et pourtant.
En fait, c'est le fait d'être humain.
C'est celle qui. Qui véhicule le moins auprès du grand public.
Après,
quelque part,
tu vois, les sons, j'en parlais des sons qui font boum boum, est-ce que ce serait pas aussi des sons joyeux quelque part ? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui se dit putain, j'ai envie de faire un son, c'est
l'été,
j'ai envie d'ambiancer, tu vois.
C'est pas faux, non, c'est vrai,
c'est ça.
C'est vrai.
Peut-être aussi, c'est juste que l'émotion est moins transparente que la tristesse, plus cachée.
Quand David Guetta sort un banger ou DJ Snake sort un banger pour l'été.
Ce duo, il devait être comme ça.
Après, être malheureux, ça veut pas dire juste être joyeux, c'est créer. Être malheureux, c'est être créatif. Elle est là aussi la différence entre créer et être créatif.
Moi, je suis d'accord.
Moi, je pense qu'il faut être humain. Et avoir un sens artiste. Parce que les émotions, quand t'es ému, quand t'es traversé par une émotion, c'est normal, t'es humain. On est tous traversés par des émotions, tristesse ou bonheur.
Mais est-ce que la tristesse n'est pas indissociable de l'artiste ?
Oh putain, c'est compliqué.
Vous avez 5 heures, je ramasserai les copies à la fin.
Ouais, c'est compliqué, oui, c'est compliqué. Moi, je dirais plus que...
Ça peut être une part d'un artiste,
en fait, un artiste,
mais pas la part, tu vois.
Un artiste est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et s'il ne véhicule pas ses réflexions, il va être frustré. Donc c'est plus une nécessité d'exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'il a en tête. Mais est-ce qu'il faut être triste pour retranscrire ce qu'on a en tête ? Je ne pense pas.
Du coup, on va conclure cette émission spéciale avec cette question qui est la question du débat. Donc, un avis rapide. Faut-il être triste pour être créatif? Oui, non. Pourquoi?
Il faut être émotif pour être créateur. Pas être artiste, mais en tout cas pour être créateur. Et pour être artiste, il faut être plus complexe, bien sûr. Mais l'émotion, pour moi, fait partie intégrante d'un artiste.
Il faut retranscrire ce qu'on a en tête, ce qui nous passe par la tête pour être un artiste. Mais il ne faut pas nécessairement être triste ou frustré pour être un créateur ou un génie artistique.
Et c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève. Thank you very much for coming out this evening. Thank you. You're far too kind. Complètement crazy, c'est terminé, c'était complètement bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé en fin de compte de cette émission spéciale? Est-ce mission accomplie?
Ah bah, c'est plutôt à nos internautes de nous le dire, n'hésitez pas à vous manifester sur les plateformes.
Ok, tu bottes en touche donc. Arnaud.
Non, moi j'ai adoré cette émission et c'est une émission nécessaire. Hein. Si on peut aider les autres, si on peut aider les gens et si on peut sensibiliser à la santé mentale, il faut le faire.
Merci à vous d'y avoir participé. Merci encore Arnaud pour l'idée. Elle vient de
Arnaud,
toi.
Merci.
Tout est bon pour se sentir mieux, sachez-le.
Prenez soin de vous.
Exactement.
Prenez soin de vous, c'est important.
Comme vous le savez, dans l'ère du podcast, chaque émission peut être la dernière. Donc sur ce, à ciao. Bonsoir.
Ciao, prenez soin de vous.
Eh bien, je vais aller me suicider, comme ça me remontera le moral.